France Culture.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Vladimir Jankélévitch, le virtuose. C'est notre série cette semaine. Ce matin, nous parlons de l'amour. Jankélévitch disait, je cite, « L'aventure amoureuse est un jeu sérieux ». Il venait d'une famille de Russes, juifs. Fuyant les pogroms, son père, Samuel Jankélévitch, né à Odessa, s'était installé en France et était devenu médecin. Ce père fut aussi le premier traducteur en langue française de Freud, avec lequel il avait correspondu. La mère de Vladimir Jankélévitch, Anna Riss, était elle aussi issue de l'immigration russe et ils ont eu 3 enfants. Lui, Vladimir, est né en 1903 à Bourges. Il a réussi le concours de l'école normale supérieure et a été reçu premier à l'agrégation de philosophie en 1926. Sa thèse, soutenue en 1931, s'intitulait « L'Odyssée de la conscience dans la dernière philosophie de Schelling ». Marqué par les enseignements de Léon Brunswick et d'Henri Bergson, il a consacré à la pensée de Bergson son tout premier ouvrage. Dans cette série qui commémore le 40e anniversaire de sa mort, Jankélévitch a disparu en 1985, nous évoquerons son œuvre ample, le fond, mais aussi le style, qui rappelle que ce grand philosophe français du XXe siècle était aussi un musicien talentueux. Son ton, son phrasé, à l'écrit et à l'oral, sont inoubliables. Nous évoquerons son fameux traité des vertus et d'autres textes, sa réflexion sur le temps, sur la mort, sur l'amour. Mais l'œuvre fait écho à sa vie et de celle-ci aussi nous parlerons. Destitué de son poste d'universitaire par le statut des Juifs de Vichy de 1940, Jankélévitch a fait cours malgré tout à Toulouse, dans l'arrière-salle d'un café, protégé par des étudiants armés. Nous réfléchirons à ses engagements de résistant, à l'impérieuse nécessité de faire qu'il ne cessait de souligner, et nous dirons quel enseignant il était, nommé professeur à Lille avant d'obtenir en 1951 la chaire de philosophie morale à la Sorbonne.
Personne n'aime l'autre d'un pur amour. En fait, empiriquement, on aime les autres toujours d'un amour impur, pour d'autres raisons que le fait que c'est eux. Et pourtant, ça ne nous est pas défendu de penser que cet amour limite existe. D'ailleurs, quand on prête à la Boétie, Montaigne, parlant de la Boétie, l'idée qu'il l'aimait parce que c'était lui, parce que c'était moi. Et quand un amant répond « Pourquoi l'aimez-vous, cette femme ?» Les autres sont insensibles à sa beauté ou à son charme, mais lui, il l'aime. Il l'aime et elle l'aime. Alors il répond « Parce que c'est elle, parce que c'est moi. » Et donc, je l'aime parce que je l'aime. Je l'aime parce que, comme disent les enfants, pourquoi l'as-tu fait parce que ? Et on ne peut pas dire pourquoi. Et la raison de l'amour, c'est l'amour. Et peut-être la raison de l'amour, c'est qu'on aime. Donc la raison de l'amour, et dans l'amour, c'est un amour à sa manière pure, presque pure. Pas tout à fait, il n'est jamais pur. On l'aime pour d'autres choses. Quelquefois, on cherche des raisons. Elle a une belle dentition. Elle a un grain de beauté sur la joue. Elle a l'idéal de la femme qu'on a. Enfin, elle est grande, elle est petite, elle est brune, blonde, potelée, ou le contraire, maigre. Mais ça, ce sont des raisons inventées après coup. On l'aime parce qu'on l'aime, tout simplement.
Un sourire est déjà aux lèvres, un sourire tendre aux lèvres de mes invités ce matin, que je vous présenterai dans un instant. C'est l'amour, en effet, qui ouvre cette série sur Vladimir Jankélévitch. Et ici, vous l'entendez, c'était le 3 janvier 1972 sur France Culture. Oh, écoutez-le encore un peu, Jankélévitch parlait de l'amour, cette fois 2 jours plus tôt, le 1er janvier 1972.
On dit « c'est prendre ». C'est prendre. Donc, vous apprenez l'amour dans un instant, en rencontrant quelqu'un. C'est pas un apprentissage, c'est une rencontre. Alors, n'importe qui apprend l'amour en un quart de seconde. C'est ce que Stendhal appelait le coup de foudre. Et c'est donc pas un apprentissage graduel. On n'est pas obligé de potasser un manuel, par exemple. Pour apprendre à jouer au bridge, n'est-ce pas, il faut potasser des manuels, l'algèbre, ça s'apprend. L'amour, tout le monde l'apprend en un instant, n'est-ce pas, par le croisement des regards. Dans le croisement des regards, dans un serrement de main, dans une rencontre, au coin de la rue, n'est-ce pas, un homme qui s'en croyait pas capable, tout d'un coup, le voilà bouleversé, transformé, il a rencontré quelqu'un en sortant du métro. Il n'y a pas d'apprentissage, c'est un événement. C'est une chose qui arrive. C'est arrivé au coin de la rue. C'est arrivé un jour que je sortais du métro Raspail. C'est arrivé un jour. Donc c'est de l'ordre de l'événement. une chose, une conjoncture occasionnelle qui exclut par conséquent tout devenir graduel, tout perfectionnement, tout progrès. Et je suis parfait du jour au lendemain, n'est-ce pas ? L'amant est parfait du jour même où il est devenu amoureux.
Bonjour Cynthia Fleury.
Bonjour.
Vous écrivez des essais de philosophie, vous êtes psychanalyste, professeur titulaire de la chaire Humanité et Santé au Conservatoire National des Arts et Métiers, ainsi que de la chaire de philosophie du groupe hospitalo-universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences. En 2023, pendant l'été, vous avez proposé 40 chroniques matinales sur France Inter, consacrées à Jean Kélévitch. Elles ont donné lieu à un ouvrage paru aux éditions des Équateurs. Et bonjour Robert Madiuri.
Bonjour.
Vous êtes professeur de philosophie, vous avez longtemps enseigné en terminale à Fontainebleau. Vous êtes aussi depuis une trentaine d'années critique littéraire au journal Libération. Et je souligne que vous avez fait paraître dans un magnifique volume chez Vrin vos articles sur d'innombrables philosophes. Vous avez été un disciple ou un étudiant, vous choisirez le mot que vous préférez, et un ami de Vladimir Jean Kélévitch, dont la pensée et le souvenir vous accompagnent encore. Je vous promets qu'on va parler de votre relation concrète aussi avec lui. Mais avant, je ne résiste pas à vous poser cette question. Avons-nous vraiment bien fait, Robert Madiuri, de commencer, pour aborder l'œuvre de Jean Kélévitch, de commencer par l'amour ? Aurait-il fallu commencer plutôt par le problème du mal, de la méchanceté ?
Vous avez très bien fait, parce que ça aurait été dommage de commencer par le mal. Il y a une raison simple de commencer par l'amour, c'est que chez Jean Kélévitch, la philosophie, c'est la morale même, et l'amour, c'est la morale, c'est l'amour lui-même. Et par conséquent, il n'y a pas de quelque chose qui précède l'amour. Comme on l'a entendu tout à l'heure, l'amour arrive. Et en réfléchissant sur l'amour, on s'étend sur tous les champs de la philosophie de Jean Kélévitch. Notamment, on aborde tout de suite la notion de vertu. Mais ça ne signifie pas qu'on puisse la saisir. On reparlera tout à l'heure du sentiment amoureux, de l'amour. Oui, que la vertu chez Jean Kélévitch n'a rien à voir avec ce que pourrait en penser une morale édifiante. Il n'y a pas des vertus qu'on possède. La vertu, elle m'échappe. La vertu, elle m'échappe de façon presque musicale. C'est-à-dire que la note, je l'entends, elle est déjà partie. Et il y a cette idée comme ça d'insaisissable de la vertu qui est comparable aussi à l'amour. C'est-à-dire que la vertu, étant donné qu'elle m'échappe, je peux plus facilement dire ce qu'elle n'est pas. Sans en faisant quelque chose de défini. Oui, le bien, c'est ça, le mal, c'est ça, le juste, c'est ça. Ça, c'est la morale des paillasses, disait Jean Kélévitch, de ceux qui posent pour la postérité. Ça, de dire qu'elle est rien du tout, que ça n'existe pas, la vertu. Mais la vertu, elle n'est presque rien. Elle n'est pas rien, elle n'est presque rien. Et elle ne se manifeste que de façon négative. Lorsque la conscience croit faire le bien et qu'elle est sûre de faire le bien, on est sûr que ce n'est pas le bien. Mais la conscience, lorsqu'elle sait qu'elle a fait le mal... Là, on est sûr qu'elle l'a fait, parce que ça se manifeste précisément par le regret, par le remords. Il y a une preuve, effectivement, du mal, alors qu'il n'y a pas de preuve du bien. Et dans l'amour, nous verrons qu'il y a aussi cette quête-là. C'est-à-dire, le bien, c'est à moi de le faire, comme il disait, et tout de suite ou jamais. Et je dois encore le refaire, de la même manière que je dois demain aimer davantage. Non pas je dois, demain j'aime davantage que je n'aime aujourd'hui. Mais pour la morale, c'est pareil. Le bien, on ne le fait pas une fois pour toutes. Le mal, on le fait une fois pour toutes. Le bien que j'ai fait, je dois le refaire. Je veux dire, celui qui a trahi sa patrie, celui qui a trahi son armée en Ukraine, ben il est traître, il est devenu un traître. Mais celui qui saute dans l'eau pour sauver un enfant, l'acte est courageux, mais il ne devient pas un courageux. C'est super ce qu'il a fait d'avoir sauvé l'enfant. On reparlera du courage, mais devant Cynthia, j'ai un peu de mal.
Cynthia Fleury a écrit un livre sur
Mais c'est parce que quand il ressort de l'eau, il ne devient pas le courageux. Il doit refaire encore le bien. Et encore, et encore.
Donc le bien et l'amour sont liés. C'est d'ailleurs peut-être un peu étonnant. Enfin, nous analyserons les raisons pour lesquelles l'amour est vertu, l'amour est moral. Pour Jean Kélévitch, mais je vous pose la même question, Cynthia Fleury. La question du mal n'est jamais loin dans la vie et dans les angoisses de Vladimir Jankélévitch. Aurions-nous dû faire face à cela d'emblée, prendre cette question du mal et de la méchanceté comme première question?
Alors je vais répondre à la fois comme Robert et un peu différemment, mais en fait vous l'avez fait. Si vous voulez, quand vous posez d'emblée l'amour, chez Jankélévitch, il le dit hein, d'ailleurs, quel est l'adversaire prioritaire de l'amour? C'est le mal. Hein, c'est pas le bien n'est pas l'adversaire du mal chez Jankélévitch. L'adversaire du mal, c'est l'infatigable engagement d'aimer. C'est ça qui fait face à l'infini mal. Parce que ça a été très bien dit par Robert, le mal, il est sans cesse là, etc. Et en fait, ce qui fait la puissance fondamentale de l'amour, c'est que c'est pas un discours.
Oui.
Il a dit, et là encore, on a entendu la voix de Jankélévitch, c'est un acte, c'est un événement, c'est un kairos, c'est un mouvement. Et c'est ça, en fait, qui est fondamental, si vous voulez, pour lutter contre le mal. C'est qu'on ne lutte pas contre le mal avec simplement des idées. On lutte avec son corps, on lutte avec des régimes d'existence intensifiés. Et les régimes d'existence intensifiés, ils le sont par l'amour, fondamentalement.
Entendu. Donc, l'amour est la question abyssale et obsédante de Vladimir Jankélévitch.
En tout cas, pour résister à la question du mal.
Entendu. Donc le négatif, je me permettrai de l'appeler comme ça, ne va pas totalement disparaître de
jamais
cette émission. Et donc c'était peut-être bien de le rappeler d'entrée de jeu. Alors on a entendu la voix de Vladimir Jankélévitch, une voix chaude, chantante. Bon, on parle de l'amour et des vertus, c'est quand même difficile de faire sans la personnalité, la musicalité de ce personnage. Je voudrais que vous nous en parliez un peu, j'oserais presque dire intimement, car vous avez une relation tout à fait particulière avec cet homme qui était votre maître en philosophie, Robert Maggiore. Néanmoins, vous avez compté pour lui aussi, il a dédié son livre de 1980, Le je ne sais quoi et le presque rien, La manière et l'occasion, livre paru au Seuil, à vous-même, Robert Maggiore, en écrivant. Je vous remercie de m'avoir donné l'exemplaire avec la dédicace, cette fois-ci, la part manuscrite qu'il a rajoutée pour vous, à Robert Maggiore, par qui tout a commencé avec la reconnaissance et l'affectueuse fidélité de Vladimir Jankélévitch. Je vous écoute.
C'est le plus beau cadeau de ma vie, ceci dit. On est bon, du moins dans le domaine intellectuel et des études. Ben, pour moi, Jankélévitch était absolument essentiel, mais mon âge fait que je peux rapporter des choses qu'aujourd'hui on a peut-être oubliées, parce que Jankélévitch, il est effectivement dans la bouche de tout le monde. Aujourd'hui, son nom est connu de tous, il est traduit dans plusieurs langues. Mais il faut dire qu'il revient de loin, quoi. C'est-à-dire que dans les années 50-60, ben, il était mis de côté. Il n'existait presque pas. Je fais exprès de dire presque pas, parce qu'il existait aux yeux des étudiants, qui lui ont toujours voué un amour fou, y compris en 68. Lorsqu'il y avait des assemblées partout, qu'aucun professeur ne pouvait parler, lui, il pouvait parler. Il faisait cours. Et nous, on l'écoutait. Avec étonnement, parce qu'on avait autre chose à faire. Il y avait la révolution à faire. Et il fallait tout changer. Les rapports entre les hommes et les femmes, le rapport à la politique. Et lui, il parlait du charme, de l'irréversible, des matinées de printemps. Je disais, mais il est fou cet homme. Sauf qu'en y allant, on comprenait quoi. On comprenait un être qui vivait absolument ce qu'il disait. Il commençait, d'ailleurs j'ai fait après, je l'ai imité toute ma vie en faisant des cours, il commençait par parler tout doucement dans l'amphithéâtre. Tout doucement. Il avait un papier à la main qui était de l'ordre de la grosseur d'un paquet de cigarettes. Alors, je ne sais pas ce qu'il avait pu noter sur ce papier. Il faisait semblant de le lire. Il parlait tout doucement. Puis après, il commençait son verbe enflé, un peu comme une marée, quoi. Des fois, il s'arrêtait et il faisait des tirades en grec. Alors nous, avec nos stylos, on n'arrivait pas à suivre, évidemment. Mais c'est tellement beau ce qu'il disait, parce qu'on avait l'impression d'assister à un concert. Et je crois que rares sont les philosophes qui ont autant utilisé la musicalité de la langue, la musique même de la langue, qui correspondait précisément à sa propre philosophie. philosophie du fugace, de ce qui passe, de ce qu'on ne peut pas rattraper, de ce qui apparaît et disparaît. Comment saisir ce qui apparaît et disparaît ? D'ailleurs, cette simple phrase, Cynthia pourra le dire, nous introduit tout de suite dans la question de l'amour, dans la question du temps, dans les deux, j'allais dire, les deux piliers ou les deux bases de la philosophie de Jean Kilibitch. Mais l'homme était aussi très drôle. Il racontait, oui, tout à l'heure on a entendu le morceau que l'amour ne consiste pas à choisir. L'amour, c'est pas un amateurisme. Et lui, il disait, oui, mais l'amateur, qu'est-ce qu'il fait, l'amateur? Ben, il va dans les comices agricoles, et puis il regarde les vaches, et puis il soulève leur mâchoire pour regarder les dents. Mais l'amour, ça s'adresse pas aux vaches. Ouais, des choses comme ça. Parce que justement, l'amour n'est jamais sélection. L'amour est élection. Alors moi, si je remplace la dentition des vaches par il ou elle est intelligent, joue bien du piano, et il est très beau, ou elle est très belle, ben, c'est la même chose.
C'est une liste de qualités, et ça n'a rien à voir avec l'amour.
N'a rien à voir avec les qualités adjectivales. Aucune. Même si c'est l'intelligence, même si c'est le bon caractère. Évidemment, quand on dit « il fait bien la cuisine » ou « il fait bien la cuisine », je l'aime pour ça, c'est que j'aime beaucoup la cuisine. Et si j'aime quelqu'un parce qu'il joue bien du piano, c'est que j'aime beaucoup la musique, et non pas la personne. Donc, s'il n'est pas sélection, c'est élection. Sauf que c'est pas une élection au sens qu'elle est promue au début par moi. Elle m'arrive. Elle est de l'ordre de l'événementiel. Oui. Puisqu'elle m'arrive, c'est à moi de la faire commencer.
Entendu. Sur ce point, il y a quand même une chose étonnante, Cynthia Fleury. Enfin, évidemment, vous rajoutez tout ce que vous voulez au magnifique commentaire de Robert Maggiori. C'est une conversation, c'est une émission de mémoire. Des choses peuvent nous arriver pendant l'émission. Mais lorsqu'il emploie l'expression de Montaigne à propos de la Boétie, j'aime en amour parce que c'était lui, parce que c'était moi, on touche à un problème. Quelle différence y a-t-il entre l'amour et l'amitié ? Fait-il, puisque c'était de l'amitié dont parlait Montaigne, et pas de l'amour. Quoique, certains ont pu dire que peut-être il y avait autre chose entre la Boétie et Montaigne. Mais enfin, c'était quand même pour penser explicitement, dans la langue de Montaigne, l'amitié. Est-ce qu'il faut, pour Jean Kilibitch, distinguer des sortes de manières d'aimer ? Notamment l'amitié et l'amour.
Alors, on peut les distinguer, et il les distingue. Malgré tout, il y a un très 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 grand continuum, si vous voulez, entre ce qu'on appelle l'amitié, la philotie, etc. C'est que, en fait, quand vous regardez l'amour, c'est généralement trois choses. Hein. C'est Eros, c'est Philia, et c'est Agapé. Donc c'est les trois choses, c'est-à-dire en fait trois manières d'être au monde, une manière plus élective, on va dire, en tout cas traditionnellement, par celle de l'éros et par celle d'un investissement libidinal dédié à un tu. Donc c'est une adresse à un tu. Après, vous avez une autre adresse à un tu qui est la philia, l'amitié, qui est un rapport plus égalitaire, etc. Enfin bon, c'est une autre façon d'aimer. Et puis, vous avez Agapé, qui est un « nous », qui est quelque chose de beaucoup plus ample, et c'est raconté chez Jean Kilibitch. Donc, de toute façon, ces trois manières d'aimer, elles se lient. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que sur la question du « parce que », qui vient exactement raconter ce qu'a dit Robert, c'est-à-dire que, en fait, on aime par tautologie, si j'ose dire. On n'aime jamais parce que. Donc, même quand il reprend le « parce que » de Montaigne, c'est un « parce que » tautologique. C'est oui. « parce que, parce que ». Hein, c'est, en parce fait, c'est que, un parce oui. que qui n'a pas de parce que. Donc, voilà, c'est ça, en fait.
Oui, exactement.
Bon. Donc, c'est ça que ça dit. Et c'est joliment dit en retournant la chose avec le malgré. C'est-à-dire, j'aime malgré. C'est-à-dire que, de toute façon, j'aime l'autre dans son caractère indivisible, dans son irremplaçabilité, dans sa singularité. Et c'est ce, encore une fois, il est incomparable. Et en même temps, c'est ça qui fait toute la, tout le charme, effectivement, de le pur, l'impur. Mmh. C'est-à-dire que il ne se la raconte pas non plus, si vous voulez, Jean Kilibitch. Il n'est pas en train de dire que nous sommes de magnifiques esprits qui, bien évidemment, n'aimons l'autre que parce que c'est une essence, etc. Donc, il y a toujours un peu de autre chose. Mais, en même temps, c'est ce qui fait la grâce de l'amour, parce que c'est une grâce. C'est comme si, si vous voulez, la pureté chez Jean Kalevitch, c'est toujours du côté du mouvement. C'est ce qui nous purifie à un instant. Vous voyez ce que je veux dire?
C'est
pas un état.
C'est très intéressant, ce langage de la pureté.
Voilà. Oui. C'est quelque chose qui apparaît, disparaît. C'est ça, la pureté. Dès qu'on l'affiche, c'est plus de la pureté. C'est du dogme, c'est une sacralisation dangereuse, etc. Mais en revanche, ce petit moment de grâce qui fait qu'on est plus pur que ce qu'on était à l'instant T-1, ça, c'est la pureté, oui.
Et alors, vous avez évoqué la philautie. Je voudrais bien, Robert Maggieri, qu'on consacre un petit moment à cette notion. C'est une notion inhabituelle dans l'histoire de la pensée occidentale. On dit plutôt l'amour de soi, ou plus tard, on dira le narcissisme. Est-ce l'ennemi de l'amour? Y a-t-il quelque chose, néanmoins, de l'amour que l'on a pour soi-même, qu'il ne faut pas totalement perdre dans l'amour? Je vous écoute sur ce sujet qui renvoie, oui, je pense, à la question de pureté, impureté dans l'amour.
Tout à fait, oui. Je voudrais juste compléter ce que je disais tout à l'heure, parce qu'après, ça va me rester dans ma tête. Je voudrais dire que Jean Kalevitch est resté jusqu'au début des années 80 un homme isolé. Il n'appartenait à aucun isme, oui, ni marxisme, ni structuralisme, ni psychanalyse, rien du tout. Donc les gens l'ignoraient. Les gens l'ignoraient totalement. Et il n'a pu émerger qu'au moment où ces ismes se sont un petit peu effrités. Voilà.
Donc et, vous
et
diriez
ensuite, on a fait
fin des années 70, voilà, début des années 80, il meurt en 85.
Voilà. On a fait publier, effectivement, on a sorti des livres qui étaient oubliés dans les cartons, mm-hmm, et c'est ça qui a fait, effectivement, notamment le Je ne sais quoi, qu'on a ressorti, et qui a fait ensuite son succès grâce à une émission. Je passe, je reviens sur la philautie. Parce que ce qu'il faut dire, c'est peut-être pour nos auditeurs, pour remettre les choses un, oui, petit peu plus à plat, ouais, c'est difficile de dire qu'est-ce que Dieu, par exemple. C'est plus facile de dire ce que Dieu n'est pas. Et dans ce cas-là, on fait une philosophie apophatique. On dit ce qu'il n'est pas. L'amour, en moi, c'est très difficile à définir. Mais il est plus facile de dire ce que l'amour n'est pas. Alors, on a déjà évoqué la chose, l'amour n'est pas sélection de qualité. Je ne reviens pas là-dessus, on l'a bien compris. Mais parfois, on s'aperçoit que des gens disent aimer, alors qu'ils aiment, par exemple, le fait d'être amoureux. Mmh. Ils n'aiment pas la personne, ils aiment le fait qu'eux-mêmes soient amoureux.
Ils aiment l'amour, comme on dit.
Non, c'est autre chose.
Ah, c'est encore autre chose.
Troisième catégorie, il y a des gens qui n'aiment que l'amour. Donc, à la limite, peu importe la personne, eux, ce qu'ils aiment, c'est l'amour lui-même. C'est l'amor amoris, déjà, saint Augustin en parlait. Il y a pire encore, il y a ceux qui aiment être amoureux, tomber amoureux, par exemple. Parce que cette phase qu'on appelait jadis l'énamourement, qui n'existe presque plus, le terme, enfin, en italien, l'innamoramento, c'est, vous voyez, c'est très long comme ça,
merci,
innamoramento,
ça.
C'est cette phase de fébrilité, de joie quotidienne, on trouve tout beau, même ce qu'on détestait, ça devient bon. Ben ça, il y a des gens qui n'aiment que ça. À la limite, peu importe la personne qui provoque ça. Puis après, il y a aussi l'amour du langage. Mmh. Il y a des gens qui croient aimer, alors ce qu'ils aiment, c'est le fait de parler d'amour. D'ailleurs, c'est un filon bien,
oui,
nourri, puisque c'est grâce à ça qu'on peut, qu'il y ait toute la littérature, tous les romans, c'est grâce à ça. Puis après, il y en a un particulier, et là on va toucher ce que disait Cynthia tout de suite, c'est la philautie. Le terme de philautie, ou philein, autos, s'aimer soi-même. Jean Kalevitch n'utilise jamais le terme de narcissisme.
Et enfin,
il ne psychologise jamais la chose, parce qu'il veut que ce soit un problème philosophique. Or, pourquoi le fait de s'aimer soi-même est paraît si disgracieux face à l'amour? Parce qu'au fond, s'aimer soi-même, c'est aussi se soigner soi-même, prendre soin de soi-même, être honnête, se présenter bien face à quelqu'un, donc ça n'a pas l'air d'être tellement mauvais. La question, c'est que lorsqu'on aime, on aime totalement l'autre. Et s'aimer soi est un empêchement pour aimer l'autre. Mais c'est plus compliqué que ça.
Oui.
Parce que ça ne signifie pas que l'autre doit se détruire. Parce que si je m'efface totalement, il n'y a plus de sujet aimant.
Mm-hmm.
Et si au contraire, je m'englobe totalement dans l'autre, dans cette figure que j'ai toujours trouvée d'un ridicule achevé, la fusion amoureuse. Vous voyez, je deviens l'autre, ben il n'y a plus d'objet à aimer non plus. Par conséquent, et là j'ose une formule peut-être que Cynthia va, qu'elle connaît par cœur et qu'elle va commenter, il faut donc faire en sorte que le moi soit le plus petit possible, qui retrécisse.
Qu'il donc soit... le moi n'est pas haïssable, comme chez
n'est
Pascal.
N'est pas haïssable. Mais... faut... Je vais jusqu'au bout. Oui, il faut qu'il retrécisse. Il faut faire en sorte de faire tenir le minimum d'être dans le maximum d'amour. Mais le minimum, sans l'effacement total, parce que s'effacer soi-même, ça ne veut pas dire s'humilier. Ça ne veut pas dire ramper par terre. Ça ne veut pas dire être... Ça ne veut même pas dire être humble. Ça veut pas dire, ça veut dire être suffisamment soi pour aimer davantage demain.
Oui, et pour aller dans le, dans ce sens-là, si vous voulez, il faut du sujet. Pour aimer, il faut du sujet. C'est le mot clé chez, chez Jean Kelevitch. Et si on veut jouer un peu comme ça, de façon didactique avec les mots, même si c'est toujours dangereux chez Jean Kelevitch, parce qu'il y a quand même une grande paradoxologie, donc les mots parfois sont retournés, mais on va essayer d'être un peu simple. Il y a du sujet. Ça ne veut pas dire nécessairement, il parle de crampe égolatrique. Bon, donc ça veut dire quoi la crampe égolatrique? Tout le monde a compris que, de fait, le sujet, ce n'est pas ça. Ce n'est pas que l'ego. Ce n'est pas que le moi. Le sujet, c'est en fait un principe d'ouverture. C'est quelque chose où il y a de l'être qui renvoie au, au conatus, entre guillemets, au sens de Spinoza, mais effectivement, qui n'est pas passionné par lui-même. Donc, c'est ça l'enjeu. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs, il y a la grande, le grand concept de l'organe obstacle chez, chez Jean Kelevitch. Donc, vous êtes toujours à la fois le levier et un peu ce qui empêche.
Alors là, je voudrais que vous nous expliquiez un moment.
Bah, l'organe obstacle, d'organe, c'est tout simple.
D'abord, je ne comprends pas le mot organe. On aime avec tout son être.
Non, mais et ça, là, le corps, qu'est-ce que ça veut dire? Vous comprenez. Le corps est,
c'est le corps obstacle.
Voilà, donc, imaginons. Tout peut être organe obstacle. Donc, ce n'est pas que. Voilà, c'est le corps, organe, donc. D'une certaine manière, c'est la force motrice, c'est par cela, ok, c'est la force opérationnelle qui fait faire quelque chose, c'est l'obstacle parce que bah, c'est une masse, c'est pas transparent, si j'ose dire, donc ça peut empêcher aussi. Donc vous voyez très bien que quand vous dites d'un concept que c'est l'organe obstacle, c'est à la fois grâce à cela que j'arrive à faire cette chose et en même temps, à cause de cet organe, je pourrais ne pas y arriver. Donc, le sujet dans l'amour, on pourrait considérer que c'est un organe obstacle, si vous voulez, dans le sens où... Alors, moi, je le mets définitivement du côté de, au contraire, l'organe, mais très clairement, vous avez ce jeu entre le moi, le sujet. Si le sujet bascule trop vers l'ego et le moi, ben, il est obstacle. S'il bascule vers le principe d'ouverture qui doit être, oui. C'est-à-dire ce qui accueille l'événement et ce qui même produit l'événement, parce que les amoureux sont des commençants, de fait, il est organe.
Alors, on va revenir sur ce problème de la limite, parce qu'on a parlé de la pureté tout à l'heure, et je me demande si il n'y a pas quelque chose autour de, du non complètement pur qui doit rester dans l'amour, selon Jean Kelevitch. Donc, mais je conçois que c'est une question qui mérite qu'on se concentre et qu'on y revienne. Je voudrais juste vous faire écouter un passage du traité des vertus sur les vertus de l'amour, Vladimir Jean Kelevitch. Écoutez, il pose le problème justement du sujet que vous venez de mettre au centre de sa philosophie, Cynthia Fleury.
Le sujet peut être sans aimer, mais l'amour ne peut pas être sans l'être aimant. Cette fatalité du « je », cette inévitable nominative du sujet agent, donne lieu à un singulier renversement dialectique. Le sujet doit vivre pour soi s'il veut vivre pour autrui. Et s'il vit pour l'autre passionnément, comme en principe il le doit, sans réserve ni restriction d'aucune sorte, s'il vit pour l'autre jusqu'à s'identifier âme et corps avec cet autre, jusqu'à devenir lui-même et en personne cet autre lui-même et en personne, alors il n'y a plus de sujet et plus d'amant. Alors il n'y a plus d'être vivant pour consacrer sa vie au prochain, et plus même de vie à lui consacrer. Cela s'appelle vivre pour l'autre à en mourir, mourir pour l'autre à force de vivre pour lui. Le mourir pour l'autre, ou per apotneskein, disait Euripide et le Phédon, étant la limite héroïque et absurde du vivre pour l'autre. Les éléments d'un cas de conscience insoluble semblent ici réunis. Le sacrifice exige en droit la nihilisation du sujet, mais sans un sujet bien vivant, sans un sujet à sacrifier, il n'y a pas non plus de sacrifice. Sans doute vaut-il mieux ne pas vivre entièrement pour l'autre, afin de pouvoir vivre pour lui, plutôt que de ne jamais pouvoir vivre pour l'autre en vivant pour lui jusqu'à la mort. Car le purisme est toujours mortel.
France Culture, avec philosophie. Géraldine Mühlmann.
Nous consacrons cette semaine une série à Vladimir Jankélévitch, un des plus grands philosophes français du XXe siècle. Nous parlons de l'amour, selon lui, ce matin, et nous avons lu un texte, merci beaucoup Nicolas Berger, notre réalisateur, pour cette lecture. Un texte où Jankélévitch dit clairement qu'il ne faut ni sacrifice de soi, ni engloutissement de l'autre dans l'amour. Et il finit par cette phrase, le purisme est toujours mortel. Je vous laisse commenter cela, Cynthia Fleury. Alors
déjà, on peut le mettre en écho à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire le isme. Vous pouvez être sûr que dès qu'il y a du isme quelque part, il y a du mortifère. Donc le purisme, ce n'est pas la pureté. Alors on peut croire qu'on joue sur les mots, mais ça montre vraiment que le purisme, c'est à un moment donné le discours sur la pureté, donc encore une fois le dogme. Il faut comprendre que à tout jamais, l'amour est du côté de l'impur. À tout jamais, pour une raison très simple. C'est la lettre que Jankélévitch envoie à Louis Bauduc en disant « On m'a découvert deux grands-parents impurs ». Donc, si vous voulez, parce qu'ils étaient juifs. Et donc, la messe est dite, d'une certaine manière. C'est-à-dire que, bien évidemment, que l'amour, c'est du côté du presque.
Et pas de la pureté, alors qu'à un moment, dans vos propos, j'ai cru que vous vouliez dire, Cynthia Fleury, que ce sont des moments de pureté, l'amour.
Oui, parce que, encore une fois, c'est pas parce qu'on enlève l'hypostase, si j'ose dire, de la pureté, qu'on arrête d'en faire une essence, c'est-à-dire quelque chose de fixe. C'est quelqu'un, Jankélévitch, qui est un philosophe de l'apparition. Donc c'est un philosophe du mouvement, c'est un philosophe de l'émergence, de quelque chose qui est, on peut être, de la gratitude. Comme on l'a dit tout à l'heure, ça vient, ça part. C'est fugace. Donc cet ineffable-là, cette pointe de l'ineffable, c'est ça, chez Jankélévitch, la pureté. C'est ça, entre guillemets, la vérité de ce qui serait un être. C'est très important parce qu'on arrive dans un monde, si vous voulez, où très longtemps, dans la philosophie, c'est une philosophie de l'essence. C'est une philosophie qui vient valoriser l'essence, l'être, ce qui est là, ce qui sera toujours là. Et Jankélévitch arrive et donne ses lettres de noblesse précisément aussi à autre chose en disant « Mais en fait, dans ce que vous pensez être de l'apparence, dans quelque chose qui est là, qui apparaît, en fait l'apparence, ce n'est pas ce qui apparaît. Ce qui apparaît, c'est quelque chose de l'être. Et ce qui apparaît, il est le grand philosophe, si j'ose dire, de cette phénoménologie-là, de cette qualité-là. Et il faut être, c'est pour ça qu'il faut être terriblement habile, il faut être comme un petit cabri pour attraper, si j'ose dire, ce fugace-là. Et c'est Jankélévitch, je dirais, le philosophe de ce phénomène d'essence. C'est-à-dire l'essence n'est jamais là, elle est quelque chose, encore une fois, dans ce qui apparaît.
Alors, et disparaît.
Ah ben tout à fait, apparaît, ce qui disparaît. Choup, choup.
Parce que si ça ne disparaît pas, si l'apparence
j'ai fait du Jankélévitch, là, j'ai fait du choup, choup.
Être, c'est ça qui est problématique. C'est pour ça, tout à l'heure, on citait la notion de kairos qui peut faire comprendre ce dont il est question ici. Parce que souvent on dit, le kairos, carpe diem, profite de l'instant, bois ton café, regarde le soleil. Mais c'est bien plus compliqué que ça. Parce que justement, c'est relié à la question du temps. C'est-à-dire que le temps passe, et par conséquent, je ne peux pas me laisser passer comme si j'étais charrié par un fleuve qui m'entraîne au loin.
Et pourquoi pas ?
Ben, on pourrait, etc. Mais ce ne serait pas moral, je vais essayer d'expliquer pourquoi.
Ah, merci, on arrive vers le gros morceau.
Parce que précisément, la question de la morale, c'est de tenter de saisir cela. De saisir... Alors, je veux prendre un exemple que citait Jean Kilevitch en cours. C'est l'exemple d'un pêcheur qui est là, dans une rivière, avec ses bottes, et il pêche. Bon, moi, je suis pas un grand pêcheur, je sais pas comment on fait, mais lui, il disait, regarde, il y a le soleil, il y a le gras de l'eau, il y a les reflets sur l'eau, il y a le vent, il y a l'ondulation de l'eau. Le bon pêcheur, il est conscient de tout cela. Et c'est dans cette situation-là qu'il va tout d'un coup capter, effectivement, la truite qui sort. Nous, on n'attrape pas les truites. Mais saisir l'occasion, ça veut dire mobiliser tout son être pour que ce qui apparaît, je puisse le saisir un peu, presque le saisir, parce qu'il va redisparaître quand même. Or, dans l'amour, qu'est-ce qui disparaît tout le temps ? C'est-à-dire, c'est que c'est l'état d'aimer qui disparaît tout le temps. Je veux dire, quand je dis à quelqu'un « je t'aime », ça va se terminer. Parce que demain, il faut que je l'aime davantage. Et encore plus, les autres jours d'après, aimer toujours davantage.
Il faut, bon. Vous venez de dire.
Mais c'est pas qu'il faut. C'est-à-dire que l'amour, comment dirais-je, c'est pas une prescription.
C'est pas personne un devoir, dit, c'est une morale c'est, sans devoir.
Mais c'est sans devoir, enfin, sans devoir.
Il y a quand même un peu de devoir. Ici, dans ce
non,
qu'il dit
c'est-à-dire
là,
qu'on l'a entendu tout à l'heure au début, et il n'y a pas besoin, ça ne s'apprend pas. Et même, il n'y a aucune loi. Ce n'est pas législatif, ce n'est pas légal. C'est pneumatiquement légitime, disait-il. Voilà, c'est ce souffle. Oui. C'est le souffle qui fait qu'effectivement, je ne me pose pas la question, je ne me dis pas, aujourd'hui, mardi, je l'ai aimé X, demain matin, faut que je l'aime X plus 1. C'est mon être qui est porté vers, effectivement, qui est porté par cet amour, dont je sais qu'il ne va jamais mourir. C'est-à-dire, quand Jean Kilevitch dit « j'aime à en mourir », oui. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est-à-dire que l'amour, lui, pour être, doit affaiblir l'être que je suis. Pour être. Mais pas l'anéantir, l'affaiblir. Un petit peu comme, comment dirais-je, comme un accueil. Ça veut dire, ma porte est ouverte, quoi. Je ne suis pas un égo ventripotent, assis sur mon fauteuil, bardé de cuirasses, etc. Et vous pouvez le traduire en termes politiques, hein. Vous pouvez le traduire en termes politiques, moi c'est moi, mon identité c'est moi, je suis entouré des murs, de murs, etc. Et toi, tu n'entres pas. Non, chez Jean Kilevitch, tu entres. La porte est ouverte, justement.
Je veux juste vous faire continuer, vous ennuie pas. Vous avez travaillé la question des vertus vous-même,
oui.
Avec Charlotte Casiraghi, vous avez publié L'archipel des passions au seuil en 2018. Je suis désolée, je vais vous paraître très naïve, mais je ne comprends pas bien en quoi l'amour est une vertu. Parce qu'il y a en philosophie une tradition, notamment la tradition d'Emmanuel Kant, qui rapporte les vertus et la morale à des impératifs de la raison, des impératifs catégoriques, à un sens du « tu dois », et pas du tout à la sensibilité. Donc, pourquoi Vladimir Jean Kilevitch a-t-il dit, par exemple, dans une autre émission de France Culture en 1971, l'amour, au fond, n'est pas une vertu, ou bien c'est une vertu qui rend inutile toutes les autres, celui qui a l'amour a tout. Mais on maîtrise rien dans l'amour. Il y a quelque chose qui est un peu difficile à comprendre.
Non, c'est pas difficile à comprendre. C'est pas difficile à comprendre si on entend ce que Jean Kilevitch entend par l'amour. L'amour, c'est la vertu même. Mais une vertu n'est pas déjà constituée. Je la constitue par mon acte, par mon engagement. Voilà, je m'engage auprès d'un être. Et la morale, pourquoi l'amour est une vertu ? Parce que l'amour affirme, dans le phénomène que nous venons de décrire, la préférabilité absolue d'autrui.
Et ça part jamais, ce sentiment ?
Non, ça part jamais. Après, nous ne sommes pas des anges. C'est-à-dire que nous sommes entourés. Évidemment, nous sommes englués dans le monde. Par conséquent, de la même manière qu'un amour, après ça va faire scandale, qu'un amour ne peut pas mourir, et donc il est éternel, ça veut dire que quand j'aime, que l'amour ne finit pas. Voilà. Pour l'amour, il n'y a que des printemps, il n'y a pas de cimetière. Donc si quelque chose meurt, c'est que ce n'était pas de l'amour.
Vraiment ?
Oui, Moi, je le crois fondamentalement, mais après, on peut y revenir, etc. Oui. Mais de la même manière, au niveau plus politique, affirmer la préférabilité d'autrui, ben, c'est la morale même. Or, pour affirmer la préférabilité d'autrui, il faut que le moi ventripotent se réduise pour accueillir l'autre. Mais c'est tellement simple ce que je dis. Si, prenons le cas d'un homme ou d'un couple qui a un enfant dans les caves d'Ukraine caché, ils ont une patate à manger. Vous pensez qu'ils vont la manger tous les deux? Et ensuite, dire à l'enfant, je suis désolé, on s'est engraissé nous-mêmes, et toi, il n'y a pas la place. Tout le monde comprend que l'autre, autrui, il sera préférable, préféré. Et donc, c'est à lui qu'on va donner la patate d'abord.
Mais peut-être même sans amour.
Pardon ?
Peut-être même sans amour,
oui,
devons-nous faire ça.
Mais si on le fait sans amour, on crée l'amour.
Ah, alors.
C'est un acte d'amour, dans ce cas-là, si on le fait sans amour. Parce que l'amour, il ne me préexiste pas. Si je donne ma patate à cette personne que je ne connais pas, ben c'est un acte d'amour, oui. Parce que j'affirme la préférabilité de... Mais Lévinas dit la même chose. Oui, quand Lévinas dit « Après vous, je vous en prie », on le fait tout le temps.
Tenir la porte.
Là, ce serait trop compliqué. Commençons déjà par ça.
Oui, entendu.
Voilà. « Après vous, je vous en prie ». Mais voyez bien, qu'est-ce qui empêche de faire ça? Par exemple, la malpolitesse, le fait que je considère que je viens avant toi. Me casse pas les pieds, je passe avant toi, je me fous de toi. Ben non, vous voyez, tenir la porte pour l'autre, l'instant, pendant un instant, l'autre est préférable à moi. Voilà.
Le vrai amour est immortel, dites-vous, Robert Maggiori, en écho à la pensée de Jean Kélévitch. Très intimidant, ça, Cynthia Fleuris. Ça veut dire que si les amours meurent, ce n'était pas de l'amour. Vous êtes d'accord avec ça?
J'espère que non.
Alors, je ne saurais pas... En fait, on vient dire dans amour beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, je pense que, Robert a raison quand il met l'amour, en tout cas en tant que vertu, du côté du principe de l'ouverture. Donc du côté du vitalisme, d'une certaine manière, c'est très bergsonien. Donc c'est aussi cet héritage-là qu'on trouve chez Jean Kélévitch, qui est la préférabilité d'autrui, mais en fait l'accueil à ce qui n'est pas moi. Bon, et l'accueil à ce qui n'est pas moi, oui, c'est définitivement quelque chose qui est du côté de l'amour. Et quand cet accueil, je dirais, s'installe un peu plus, on a un amour qui va venir me nourrir, me construire, qui va être davantage dédié, etc. Et peut-être que celui-là, il peut être plus fugace et puis s'en aller, ça n'enlèvera pas. Vous avez remarqué que quand vous avez aimé quelqu'un, désaimer quelqu'un que vous avez réellement aimé n'est pas tellement possible. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a une conversion. Donc, il y a une continuité de l'amour qui se dit autrement. C'est assez rare de désaimer quelqu'un que vous avez vraiment aimé. Enfin,
moi, je vous écoute.
Voilà. Là, Donc, à partir du moment où il y a eu amour, en fait, c'est comme une trace indélébile. Elle est posée, elle est là. Alors, elle ne se racontera pas peut-être de la même façon éternellement, mais elle est irrémédiablement là. Si il y a quelque chose d'une trace.
Oui.
Donc, c'est quelque chose qui a été et qui est, et voilà, c'est là. Maintenant, pourquoi c'est une vertu, si vous voulez, chez Jean Kélévitch, par exemple, il le dit, que c'est plus fort que la justice. Que la justice, c'est un moment du rationnel, que l'amour, c'est quelque chose qui, à un moment donné, encore une fois, n'est pas du rationnel. Pas du rationnel, ça ne veut pas dire que ce n'est pas la raison. Parce que ça aussi, si vous voulez, on a une vision de la raison qui est la rationalité, et notamment la rationalité instrumentale. Mais c'est pas ça la raison. La raison, c'est un immense oui à la vie et à la connaissance de ce monde avec ses parties connues et inconnues. Donc, c'est pour ça que les mots se retournent un peu. Il va dire à la fois, l'amour, c'est toujours la nuit du discours. Donc, en gros, c'est pas le moment où on parle, etc. Et puis, en même temps, il va nous emmener, si vous voulez, vers quelque chose qui est scintillant. Et c'est le premier à dire des pages et des pages et des pages et des pages. Il faut lire la langue de Jankélévitch. La langue de Jankélévitch, c'est une langue qui, par essence, est amoureuse, si j'ose dire. C'est véritablement, si on devait qualifier son style, on dirait c'est un style qui est comme si l'amour se racontait. Donc, voilà, c'est pour ça que chez Jankélévitch, pas parce qu'il dit à un moment donné « ce n'est pas le grand moment du discernement » ou alors « c'est le fin mot de l'histoire du discernement », c'est-à-dire le « oui » au monde.
Alors, ne vous inquiétez pas, Robert Madurie, vous allez pouvoir répondre, si vous le souhaitez, à ce que vient de dire Cynthia Fleury. J'aurais juste ajouté une pièce de plus dans notre affaire ce matin autour de l'amour, selon Jankélévitch, qui est la question de l'aventure. L'aventure, c'est un concept chez Jankélévitch, tout comme l'ennui et le sérieux. Ça a donné lieu à un ouvrage, L'aventure, l'ennui, le sérieux, de lui-même, dont l'édition originale est 1963. Et il semble avoir écrit, enfin il a écrit, nous avons cette citation qui donne son titre à notre émission, que l'aventure d'amour est un jeu sérieux. J'aimerais qu'on vienne, pour la fin de l'émission, au sens de cette phrase. Mais pour ce faire, écoutez un extrait de Jankélévitch du livre que je viens d'évoquer.
Penché sur la vertigineuse imminence ou tendu vers la frénétique urgence, l'aventure amoureuse tend à régénérer au-dedans de la vie une seconde vie, une vie intense et fervente, une vie véritablement vécue qui est comme un raccourci exemplaire de la vie réelle. La parenthèse érotique elle-même est parfois une sorte d'œuvre d'art, un épisode bizarre interpolé dans l'existence, un devenir au rythme fiévreux et trépidant grâce auquel provisoirement s'accélère le temps languissant de la continuation quotidienne. Allegro fantasque, capriccio ou scherzo, l'aventure est une petite vie à l'intérieur de la grande. Encastrée dans la grande vie ennuyeuse, terne et morne qui est notre quotidienneté, l'aventure ressemble alors à une oasis de romanesque où les hommes, recherchant la haute température de la passion, se sentent pour la première fois exister. Quittant leur vie de fantômes pour la délicieuse illégalité, ils connaîtront enfin la condensation passionnée d'un vrai devenir. Mais il arrive que la petite vie intense, enclavée dans la grande vie sérieuse et informe, se substitue à elle, prenne sa place, envahisse et occupe la destinée tout entière. L'emboîtement des vies tourne à la concurrence tragique.
Et vous entendez une musique de Schumann en tapis sonore, comme on dit en radio, pour la lecture de ce texte. Je vais vous laisser commenter très librement, Robert Madurie, cette notion d'aventure qui est ici développée et qui concerne l'amour.
Oui, c'est vrai que la notion d'aventure est assez complexe, Jankélévitch, parce qu'il n'y a pas que l'aventure amoureuse. Il y a aussi l'aventure amicale, il y a aussi l'aventure de la morale elle-même. L'aventure, ça signifie que je suis capable de faire advenir quelque chose du futur. Et donc capable de me projeter pour être l'initiateur d'un événement qui va avoir des conséquences dans le futur. Ça, l'aventure. Mais sans qu'il y ait de prescription, sans qu'il y ait d'autoroute préétablie, sans qu'il y ait de règles préétablies. L'aventure, elle est d'une certaine manière une façon de se lancer, non pas à l'aveugle, mais ce qui compte, c'est le fait de se lancer. C'est ça, l'aventure. Parce qu'elle crée, effectivement, la valeur au moment où je le fais. Je veux dire, on parlait tout à l'heure de la personne qui plonge dans l'eau pour sauver un enfant. Ben, il fait advenir quelque chose qui n'était pas dans le futur.
Oui.
Et d'ailleurs, le courage consiste non pas à avoir peur, mais il n'y a de courage que si on a peur. Parce que si c'est un sauveteur professionnel qui plonge, il est moins courageux que la personne qui ne sait pas nager et qui plonge quand même, et qui s'aventure. Oui, il y a dans l'aventure la création de la morale même, du bien même. Sauf que ce n'est jamais terminé. Sinon, ce ne serait pas une aventure. Oui, les voyages qui se terminent Même Ulysse, oui, il va retourner à Ithaque, mais après beaucoup d'aventures, justement.
Et pourquoi dit-il que c'est un jeu sérieux, l'aventure d'amour? C'est la phrase de
parce
Jean
que c'est un jeu, parce qu'il n'y a pas de règles préétablies.
Oui.
C'est gratuit, ça m'arrive, mais c'est sérieux parce qu'il n'en va non seulement de ma vie, mais il en va de la morale même, il en va de la philosophie même, il en va de l'amour lui-même.
C'est
quoi.
Sérieux parce que c'est moral et parce que c'est moi,
sûr.
Parce que c'est lui, parce que c'est ici et maintenant.
Voilà.
Voilà, c'est toujours ça, hein, chez Jean Kelevitch.
Dit aussi quelque chose d'autre sur lequel, c'est pour poursuivre ce que disait Cynthia tout à l'heure, par rapport à cet amour qui finit pas, parce que ça, c'est un vrai problème quand même. Lui dit, l'amour est plus fort que la mort. Mais, la mort est plus forte que l'amour.
Voilà.
Alors, comment le comprendre? Bien sûr que l'amour est plus fort que la mort.
Bien sûr.
Parce que l'amour n'a pas de fin. D'ailleurs, qui d'entre nous, enfin pas d'entre nous, qui au monde, parmi les milliards de personnes, lorsqu'il aime, serait capable de dire « je t'aime jusqu'à mardi prochain » ou « je t'aime jusqu'en 2032 »
ou « jusqu'à ta mort »
ou « je t'aime pendant 15 ans ». La plupart des gens disent « je t'aimerai toujours ». Je t'aimerai toujours. Ça veut dire que l'amour est fait pour être durable ad aeternam, pour être durable tout le temps. Mais donc, si quelque chose se termine, s'il est fini, et non pas infini, ben c'est que ce n'était pas de l'amour. Mais ce qui n'est pas de l'amour n'est pas rien. Il y a l'amitié, il y a la complicité, il y a les joies du partage, il y a des tas de choses qui sont belles, il y a la sexualité, etc., etc. Mais l'amour en lui-même ne meurt pas. Et pourtant, il meurt. Chacun d'entre nous le voit bien.
Et il est pour plusieurs personnes dans une
vie. Mais pourquoi il meurt? Pourquoi il meurt? C'est pas de lui-même. Renaud Barbaras m'avait donné une fois une image, parce que je soutenais ça, il était d'accord avec moi, en disant une goutte d'eau. Si vous prenez une goutte d'eau avec l'hydrogène et l'oxygène qui fait la goutte d'eau en tant que telle, elle ne va jamais mourir. Pourquoi elle va mourir? Parce qu'il y aura des bactéries, des virus, des poussières qui viendront d'ailleurs. Or, notre vie amoureuse, elle est faite aussi de corps, elle est faite d'ennui, elle est faite de scènes de ménage, elle est faite de colère, elle est faite de corps, elle est faite d'incorporel, parfois de prières, de requêtes, de demandes, de gifles, parfois de fuites, de vacances tout seul, d'aventures, au sens autre que celui de Jean Kelevitch. Et donc, c'est dans ce milieu-là que l'amour va mourir. Mais en lui-même, s'il était préservé, il ne mourrait jamais, puisque l'amour est fait pour être toujours.
Cynthia Fleury, vous allez avoir le dernier mot. On a l'impression chez Jean Kelevitch qu'à la fois c'est tout à fait exceptionnel l'amour, puisque dans beaucoup de situations ça meurt, le vrai amour ne meurt pas. Et puis en même temps c'est une vertu, a priori ça pourrait concerner plusieurs personnes dans la même vie, c'est pas exclusif, est-ce que je me trompe? Donc
non.
C'est peut-être pas si exceptionnel non plus que cela, vous voyez, il y a un petit problème là,
c'est pas pour le
penser.
Alors c'est pas un problème, ça s'appelle un paradoxe,
voilà.
Et chez Jean Kelevitch, ça fait c'est le point pivot de toute sa morale, c'est une paradoxologie, donc c'est à la fois ce qu'il y a de plus exceptionnel, et en même temps ça peut se loger dans l'ordinaire, hein, il avait d'ailleurs très souvent, il expliquait, puisque c'est le charme, si vous voulez, c'est le je ne sais quoi. Et d'ailleurs, il disait, c'est très simple d'inventer le je ne sais quoi à Venise, parce que tout le monde dit, bah bien sûr, c'est magnifique, c'est splendide. Non, allons à Roubaix sous la pluie. Et voilà, et donc c'est ça, en fait, il faut comprendre que l'amour, si je vous dis, mon Dieu, c'est dans tel endroit, bah bien sûr, c'est évident. Mais non, allons dans l'obscurité, là, et puis finalement, choum. Ça a surgi. Donc on voit très bien que c'est l'amour qui est exceptionnel et c'est pas le contexte exceptionnel qui fait la puissance de l'amour. En fait, il le dit, hein, c'est ce qui, à un moment donné, fait que vous n'êtes plus un fantôme.
Eh bien, merci beaucoup, Cynthia Fleury. Merci aussi, Robert Maggiori. Vous êtes encore Robert Maggiori avec nous demain pour un deuxième épisode de cette série sur Jean Kelevitch qui sera consacré à sa conception du temps. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms. Cette semaine, il s'intéresse au retour au texte. Voici le pourquoi du comment.
Pourquoi faut-il revenir au texte ? des années 60 aux années 80, l'ensemble des sciences humaines a été défini par une insistance absolument incroyable rétrospectivement sur la notion de texte. Le texte était conçu, en effet, construit comme, dans le lien avec les études du langage et avec la linguistique qu'on disait alors structurale ou structuraliste, le texte était conçu, construit, expliqué comme une totalité autonome. Par exemple, expliquer un texte de Balzac, ça n'était pas se référer aux intentions subjectives de Balzac, ni même au monde que décrivait Balzac, ou à l'histoire du XIXe siècle, comme contexte, comme on dit justement, le contexte n'expliquait pas le texte devait s'expliquer par lui-même. De même que la langue, dans la linguistique structurale, est un tout autonome, qui fait qu'on ne construit pas le sens d'un mot par référence au monde, mais par différence interne entre les autres mots dans la même langue. Ainsi, le mot table diffère d'abord du mot fable, avant de renvoyer à des objets avec des pieds sur lesquels on pose un plateau pour manger ou pour écrire. Eh bien, de la même manière, le texte était perçu comme une réalité autonome, indépendante, disaient nos professeurs dans les années 80 encore, une réalité autonome qu'il fallait étudier pour elle-même. Cette insistance sur le texte avait quelque chose d'excessif. Il y avait une coupure qui a été fait l'objet elle-même en quelque sorte d'une rupture après coup, a posteriori. Il y avait une coupure du texte avec le monde et avec le sens et avec les humains. D'une certaine façon, il y avait cette ambition de faire comprendre que le texte était autonome, qu'il y avait une histoire des textes indépendante des intentions et du monde extérieur auquel les humains se confrontent dans leur vie. Ceci a beaucoup changé. Mais ce n'est pas une raison pour renoncer à la notion de texte. En effet, nous avons aujourd'hui oublié que le texte désigne malgré tout une totalité signifiante qui fait référence en elle-même et qui en quelque sorte a une histoire propre. Oui, il y a des textes, c'est-à-dire non seulement des écrits qui renvoient à des intentions subjectives, c'est bien le cas, quelqu'un, un humain a écrit le texte, et il y a des textes qui parlent de quelque chose, oui, il y a une vérité objective, il y a des textes vrais ou faux, il y a des textes scientifiques et des textes qui ne le sont pas. Mais cela n'empêche pas qu'il y a une réalité indépendante, une épaisseur, pour ainsi dire, du texte dans l'histoire humaine. Le texte des grands livres sacrés, par exemple de la Bible ou des autres, le texte a une histoire spécifique, une histoire autonome, qu'il ait été écrit par Dieu ou par des prophètes ou par des humains. De toute façon, les interprétations du texte ont fait histoire. Et même, on peut dire d'une certaine façon que notre histoire, l'histoire des humanités, l'histoire de l'humanité, est faite de textes qui ont une épaisseur. L'histoire de l'Europe, ce n'est pas une essence donnée de tout temps, ce n'est pas non plus une fiction dont on pourrait se désintéresser, c'est l'épaisseur de certains textes et de leur interprétation. Il faut donc revenir au texte, à l'épaisseur du texte, à l'histoire des textes. C'est ce qui définit les humanités. Bien entendu, il y a aussi, encore une fois, la vie, le vivant, ce n'est pas nous qui dirons le contraire, et il y a la vérité et la science. Mais entre les deux, il y a justement les humanités, l'expérience littéraire, philosophique, historique, des textes, de leurs aventures, qui font le bonheur ou parfois le malheur des humains.
Merci Frédéric Worms. Et d'ailleurs, vous serez vous aussi avec nous demain pour parler du temps chez Vladimir, ou selon Vladimir Jankélévitch. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast sur l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Dalia. Elle a été préparée en particulier par Armance Bourquin et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Anna Fulpin, Nassim El-Kabli, Corinne Amar, Victoire Mellet. Vous êtes sur France Culture. Vive la curiosité.